Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le jeudi 30 octobre 2025. La grosse journée d'hier aura accouché d'une souris. La hausse en série des indices américains a été interrompue et l'intervention de Powell était plus ou moins alignée avec ce qu'on attendait. Il a baissé les taux comme prévu, mais il a laissé entendre que la baisse des taux de décembre n'était pas acquise. Loin de là. C'est le loin de là qui n'a pas plu. Alors les indices ont baissé de manière homéopathique, mais comme à chaque fois qu'on ne termine pas en hausse, on se dit que c'est peut-être une opportunité d'achat. Bref, hier, la Fed a baissé les taux. On savait qu'elle allait le faire, et maintenant, va falloir utiliser la macro pour deviner la suite. Enfin, si macro, il y a un jour. Bon, ben voilà. Après 4 jours de hausse non-stop, Wall Street a décidé de reprendre son souffle. Pas de drame, pas de crash, juste une petite pause café entre deux euphories. On a eu exactement ce qu'on attendait, mais en même temps, comme à chaque fois qu'on a trop anticipé les choses, on se dit qu'on aurait quand même voulu un peu plus. Le S&P 500 termine inchangé, après avoir testé les 6918 au plus haut de tous les temps. Le Dow Jones reculait 3 fois rien, mais pourra se targuer d'avoir au moins une fois dans sa vie touché les 48 000 points. Et le Nasdaq, fidèle à lui-même, trouve quand même la force de grimper de 0,6%. Merci à Nvidia qui prenait 3% et qui devenait la première boîte du monde à valoir 5 000 milliards de capitalisation. Hier soir, Jérôme Powell aura été l'architecte de la séance. L'homme nous a porté son spleen et montré encore une fois son visage de dépressif avec un ton grave et il nous a un peu cassé nos jouets. Lors de sa conférence, le patron de la Fed a lâché une phrase qui a tout gâché. Une nouvelle baisse des taux en décembre n'est pas une conclusion évidente, loin de là. Far from it, il a dit. Trois petits mots, mais alors trois mots qui ont claqué comme une claque monumentale. Oui, parce que ces dernières semaines, on s'était habitué à une Fed plus cool, plus décontractée. Et d'un coup, Powell a rappelé que le monde merveilleux de la finance, c'est pas uniquement faire plaisir à tout le monde en baissant les taux comme un bourrin. Il y a aussi des conséquences à la baisse des taux que l'on ne peut pas négliger, comme l'inflation, par exemple. Et Powell, en tant que gardien du bon sens, a tout de même levé la main pour dire « deux secondes ». Alors après, les analystes en psychologie du marché sont tous sortis du bois pour venir nous expliquer que le « far from it » ne veut pas dire qu'il ne va pas baisser les taux en décembre. Ça veut simplement dire qu'il garde toutes les options ouvertes. Bon, pour être franc, il n'y a que Powell qui sait vraiment ce qu'il a voulu dire. Mais disons que le marché ne veut pas croire qu'il ne baissera pas les taux en décembre. Mais par contre, il faut admettre qu'entre les marchés qui battent record sur record et les investisseurs qui s'enflamment sur la perspective de taux zéro, il fallait bien quelqu'un pour remettre un peu de gravité dans la salle. Et c'est ce que Powell a fait hier soir en expliquant que la vraie vie de l'économie américaine, ça n'est pas simplement de baisser les taux comme un bourrin. Le bourrin, c'est le président et Powell, lui, c'est le gardien d'une certaine raison économique. Alors, ça ne fait pas plaisir au marché, mais l'économie, c'est pas toujours aussi simple. Et le yaka faucon, ça marche dans les dessins animés, mais la réalité est parfois plus complexe. En résumé, hier soir, Powell a baissé les taux. Il a annoncé aussi que le quantitative tightening devrait se terminer à la fin de l'année, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais comme on était tellement occupé à déprimer avec le loin de là de Powell, on n'en a même pas tenu compte. Après, on notera quand même que selon une statistique que j'ai lue ce matin, depuis 2 ans, à chaque fois que la Fed parle, le S&P 500 grimpe dans les 30 minutes qui suivent, avant de redescendre mollement jusqu'à la clôture. C'est exactement ce qui s'est passé hier. La statistique a fonctionné. Après, je me dis toujours, il y a quand même un gars quelque part qui s'est dit un matin, tiens, si j'allais analyser les réactions du marché après les annonces de la Fed. Comme quoi, on n'a pas tous la même vie, ni les mêmes intérêts. Et puis, dans la foulée de l'annonce de la Fed, pendant qu'on apprenait que sur tous les membres votants de la Fed, il y en avait quand même un qui disait qu'il ne fallait pas baisser les taux du tout et un autre qui voulait 50 BP au lieu de 0,25, on sait qui est le second, c'est l'homme de Trump, Steven Miran. Mais pendant ce temps, le rendement du 10 ans US s'est envolé et à l'heure où je vous parle, on est à 4,07 de rendement. Finalement, ça a plus bougé sur le marché obligataire que sur le marché des actions qui, lui, se contente de se poser la fameuse question. Bon, quand c'est qu'on buy the dip ? Hier soir, il y avait un avant-Fed et puis un après-Fed, mais un avant-publication de Microsoft, Meta et Google, et puis il y avait l'après tout ça. L'après tout ça, ça donne un futur légèrement en baisse et des traders qui sont en train d'analyser les charts pour trouver des points d'entrée et qui veulent dire quelque chose parce que les 7000 sur le S&P 500 ou les 50000 sur le Dow Jones, on n'a pas renoncé à les voir cette année. Le problème, c'est que sur les 3 grosses publications d'hier, ça n'a pas été 100% carton. Mais avant d'attaquer le gros du sujet, commençons d'abord par les publications du début de la séance, d'avant la Fed. Caterpillar a sorti des chiffres costauds, mieux que prévu, avec des revenus en hausse dans trois de ses gros segments. Le titre s'est envolé de près de 12%, meilleure perf du Dow Jones et l'une des stars du S&P 500. Du côté câble et antenne, Verizon s'en sort pas mal non plus, bénéfice au-dessus des attentes, même si la croissance des abonnés n'est pas au top. Le titre prenait 2,3%. Et puis, il y a Boeing, toujours fidèle à sa réputation de serial deception, une charge de 4,9 milliards de dollars liée au retard du 777X, un trimestre plombé et une chute de 4,4%. Passons maintenant aux choses sérieuses. Puisqu'il faut en choisir un pour commencer, on attaque avec Microsoft. Le géant de Redmond a présenté des résultats de mutants. 77,7 milliards de chiffre d'affaires, mieux que prévu. 4,13 dollars de bénéfices par action, mieux que prévu aussi. Et surtout Azure, son business cloud en orbite stratosphérique avec plus 40% de croissance. Là où Wall Street en attendait que 38. Du très lourd. En résumé, tout le monde veut du Azure et Microsoft n'a même plus assez de serveurs pour livrer tout le monde. Pendant qu'Amazon Web Services patine avec 18% de croissance, Azure, lui, accélère. Satya Nadella a d'ailleurs annoncé la couleur. Notre capacité totale en IA va augmenter de 80% cette année et nos data centers vont doubler d'ici 2 ans. Et, histoire d'en rajouter une couche, OpenAI a officialisé une alliance encore plus profonde. La filiale commerciale devient une Public Benefit Corporation, dont Microsoft détient désormais 27%. Et surtout, OpenAI s'engage à acheter 250 milliards de dollars de services Azure dans les années à venir. 250 milliards. Ça ne veut juste plus rien dire. Et pourtant, hier soir, after close, Microsoft était en baisse de 4%. Tout ça parce que la guidance était dans la moyenne des attentes et que la moyenne, ça ne suffit pas. Ça ne suffit plus. Le marché fait la fine bouche. Microsoft, c'est un peu le mec parfait. Il est intelligent, stable, honnête, musclé, millionnaire. Mais il se fait quand même larguer parce qu'il fait plus rêver. Le marché fait la gueule aujourd'hui, mais tout le monde sait que dans 2 semaines, on reviendra frapper à sa porte en disant « Eh, finalement, t'étais pas si mal ». Parce qu'au fond, il y a une seule vérité dans cette histoire. Tant qu'il y aura de l'IA, il y aura du Microsoft. Bon, pendant que Microsoft se faisait taper dessus pour avoir été trop bon, Alphabet a sorti l'artillerie lourde et a mis tout le monde d'accord. Résultat plus 6% en after close et ambiance de feu d'artifice sur Google Street View. Bénéfice par action 2,87$ par action, largement au-dessus des 2,26 qui étaient attendus et plus 35% par rapport à l'an dernier. Et chiffre d'affaires 102,3 milliards contre 99,9 milliards prévus. Croissance de 16% sur un an pour une boîte qui pèse déjà plus de 2000 milliards. C'est presque indécent. Là où tout le monde se pâme de bonheur, c'est sur le Google Cloud, là encore une fois, c'est presque indécent, grosso modo, c'est plus 34% de croissance sur un an, marge opérationnelle à 24% contre 17% l'an dernier, et une nouvelle annonce, 92 milliards d'investissements prévus dans les data centers d'IA en 2025, au lieu des 85 initialement prévus. Et pendant que tout le monde s'extasie sur le cloud, le vrai cash, lui, continue de couler à flot depuis la pub, 85% des revenus viennent encore de là, la machine à cash tourne à plein régime. Alphabet, c'est le meilleur des deux mondes, le vieux moteur de la pub qui crache encore des montagnes de fric, et le mix cloud IA qui propulse la boîte dans le futur. Pendant que Microsoft et Amazon s'écharpent pour savoir qui dominera l'IA, Google avance tranquillement avec YouTube qui imprime, Search qui domine, et des serveurs qui poussent comme des champignons dans le désert de l'Arizona. Le titre a déjà pris 41% depuis le début de l'année, et après ce genre de résultats, on se demande bien ce qui pourrait encore l'arrêter. Chez Meta, c'était un peu moins drôle. Hier soir, si on devait résumer les choses, il faudrait dire les revenus explosent, mais les marges fondent. Sur le papier, le trimestre de Meta est plutôt solide. 51,2 milliards de revenus, mieux que les 49,5 milliards attendus, et plus 26% sur un an. Mais là où ça coince, c'est le bénéfice par action. 1,05 par action, alors que Wall Street attendait 6,72. Ouch ! Bon. Pour être honnête, il y a eu une grosse charge exceptionnelle dans le trimestre, un one-shot comptable qui fausse un peu la photo. Mais comme on n'est pas super tolérant en ce moment, le titre prenait quand même 8% dans les dents after close. La marge opérationnelle est passée de 43 à 40, 3 petits pourcents. Mais dans le monde de Meta, ça représente des milliards de dollars qui se sont évaporés. Pourquoi ? Parce que les dépenses de R&D ont bondi de 28%, tirées par une véritable frénésie d'embauche dans les équipes IA, sans compter que les prévisions de dépenses pour 2025 ont été encore revues à la hausse, et les dépenses de 2026 seront encore plus élevées que celles de 2025. Zuckerberg appelle ça investir dans l'avenir, mais à Wall Street, on appelle ça brûler du cash avec enthousiasme. Pendant que Microsoft, Amazon et Google construisent des data centers pour les louer, Meta, lui, les construit pour lui-même. Ces fermes de serveurs géantes ne servent qu'à faire tourner ses propres IA et améliorer la pub sur Facebook, Insta et WhatsApp. Résultat, l'entreprise est en train de devenir très lourde en actifs et son cash fond comme neige au soleil. Pourtant, Le patron veut continuer à investir massivement. On a déjà vu ça par le passé. Zuckerberg veut investir. Wall Street pense que c'est une connerie. Et les deux trimestres plus tard, eh bien, on se rend compte que Zuckerberg avait raison. Pourvu que ça dure et que ça se répète, surtout. L'entreprise gagne toujours des sommes astronomiques, mais son patron dépense plus vite qu'elle n'encaisse. Zuckerberg veut transformer Facebook en une machine d'IA totale au risque de cramer le moteur en vol. Wall Street lui commence à douter. Est-ce encore une entreprise ou un gigantesque laboratoire d'expérimentation financé par la pub? Mais connaissant Zuck, une chose est sûre, il ne ralentira pas. En conclusion, Microsoft fait mieux, mais c'est pas assez. Google a fait mieux et commence à rattraper le retard dans certains secteurs. Quant à Meta, il y a une grosse charge et des investissements et des gros doutes. Ce matin, l'Asie est globalement légèrement en baisse. La BOJ a laissé ses taux inchangés lors de son premier meeting sous l'ère Takaichi. Et le reste du monde digère le meeting entre Trump et Xi Jinping qui vient de se terminer. Le pétrole est à 60,20, l'or est à 3 970 et le bitcoin vaut 109 000 $. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ce qui s'est passé cette nuit, se trouve sur le terrain géopolitique. C'était la première rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping depuis 6 ans. Et pour l'occasion, les deux présidents se sont retrouvés à Busan, en Corée du Sud. Le résultat de ce meeting qui a duré 1h40, c'est une poignée de main, un deal d'un an sur les terres rares et une série d'annonces dont seule la Maison Blanche a le secret. Rien qu'on n'avait pas vu venir avec les déclarations de ces derniers jours. Trump a annoncé fièrement que les droits de douane sur le fentanyl chinois allaient passer de 20% à 10%. Oui, le fentanyl, cette drogue responsable de milliers de morts aux États-Unis, officiellement c'est pour inciter Pékin à coopérer et à stopper les exportations illégales. Officieusement, c'est un moyen de dire on vous fait confiance, mais pas trop longtemps quand même. En parallèle, il a aussi réduit les droits de douane totaux sur la Chine de 57% à 47% et en échange, Pékin promet de reprendre ses achats de soya américain et de travailler très dur pour réduire le fentanyl. Moins de taxes compte plus de bonne volonté. Trump a également déclaré que la question des terres rares était réglée. Un accord d'un an, renouvelable chaque année pour sécuriser l'approvisionnement américain en métaux critiques. Concrètement, les États-Unis obtiennent une garantie d'accès à certains minerais chinois et la Chine obtient un peu de répit sur le front commercial. Et on n'a pas dit un mot sur Taïwan, histoire de ne pas se fâcher bêtement. En conclusion, Trump a obtenu ce qu'il voulait, une photo historique, un deal court terme et une illusion de contrôle. Xi, lui, gagne du temps, relance ses exportations et fait mine de coopérer. Pendant que les deux jouent à la diplomatie, les investisseurs observent parce qu'ils savent très bien qu'un accord d'un an avec Trump, c'est comme une trêve dans une télé-réalité. Tout le monde se félicite jusqu'à l'épisode suivant. Voilà, les 24 heures ont été, les dernières 24 heures ont été très chargées. Et c'est pas fini. Ce soir, c'est Apple et Amazon. Mais ça ne devrait pas changer grand chose. Les États-Unis sont toujours sous shutdown. C'est le 29e jour. Et à voir comment ça ne bouge pas, il est plus que probable que dès mardi soir, nous battrons le record du plus long shutdown de l'histoire avec ses 35 jours. On commence à entendre parler de pression financière dans certains secteurs. Et on parle même de risque de ralentissement du côté des contrôleurs aériens. Bref, on sait que le shutdown n'impacte pas l'économie sur le long terme, parce qu'une fois que ça réouvre, ça repart quand même et on rattrape le retard. Mais là, on se retrouve quand même dans une zone inconnue qui pourrait avoir un peu plus de conséquences que prévu. Aujourd'hui, il y aura le PIB français, allemand et américain, puis il y aura aussi la décision de la BCE sur les taux, et on n'attend absolument rien, du blabla et de l'inaction. On verra ce qu'on arrive à trouver comme indice dans le décodage du discours de Mme Lagarde, mais disons que là, tout de suite, il ne faut pas trop s'attendre à de grandes surprises ou à de grandes manœuvres. Et puis, histoire de mettre l'ambiance, Donald Trump a ordonné au Pentagone ce matin de reprendre les tests nucléaires américains. Une première depuis 1992, invoquant les essais récents menés par d'autres puissances. Il a déclaré vouloir agir en equal basis, sans préciser ce que ça signifie concrètement. L'annonce intervient juste après que la Russie ait testé sa torpille nucléaire Poséidon, ainsi que son missile Burevestnik, dans une série d'exercices stratégiques. Trump affirme que les États-Unis possèdent plus d'armes nucléaires que quiconque, alors que les chiffres montre que la Russie reste devant, avec environ 5459 ogives contre 5177 pour les States. Sur Truth Social, il a parlé du Department of War, un nom qu'il a rétabli par décret en septembre, même si le Congrès n'a jamais approuvé ce changement. Le ton rappelle la guerre froide, avec un parfum de course à l'armement revisité façon 2025. Le dernier test américain remontait à l'ère George W. Bush, et depuis, un moratoire unilatéral était en place, complété par le traité d'interdiction des essais nucléaires signé par Clinton en 1996. Trump rompt donc avec 3 décennies de retenue stratégique. Officiellement, il s'agit de rétablir l'équilibre face à Moscou et Pékin, et en réalité, réalité, c'est un message politique musclé destiné à montrer qu'il reprend la main sur la scène mondiale. Un geste qui est à la fois symbolique, risqué et explosif, qui replace les États-Unis au cœur d'un nouvel âge nucléaire, version Trump, bruyante, imprévisible et très médiatique. Manquait plus que ça. En conclusion, Powell a baissé les taux, mais son farfremite a glacé l'ambiance. Les marchés ont fait la moue, le 10 ans s'est envolé et tout le monde cherche déjà le prochain buy the dip. Pendant ce temps, Microsoft cartonne, Google explose et Meta crame du cash au nom de l'IA. Trump, lui, joue les pyromanes diplomatiques, un petit deal avec Xi sur les terres rares, une baisse des tarifs sur le fentanyl et, cerise radioactive, la reprise des tests nucléaires américains. On y ajoute un shutdown record, une BCE en mode post-café. Ce soir, c'est Apple et Amazon et dans deux jours, c'est le week-end. Excellente journée à tous et à demain.